Les constatations sont en fait des confirmations de ce que nous avions déjà commencé à documenter à distance, à savoir que les forces russes utilisent des armements qui sont interdits par droit international, notamment ce qu'on appelle des bombes à sous-munitions ou des bombes à fragmentation. Et par ailleurs, elles utilisent aussi des armes extrêmement imprécises qui ne peuvent donner qu'un seul résultat, ce sont ce qu'on appelle des frappes indiscriminées. Et de surcroît, les utilisent dans des zones résidentielles. Il s'agit bel et bien d'éléments constitutifs de crimes de guerre, car d'une part, ces frappes indiscriminées dans des zones résidentielles, et d'autre part, le fait que des civils soient pris pour cible de manière récurrente, eh bien, ce sont des preuves supplémentaires que les forces russes ne respectent absolument pas le droit international humanitaire, qu'on appelle aussi le droit de la guerre.
Alors, qu'ont dit les victimes de ces attaques?
Les témoignages sont absolument effroyables. Il y a une sorte de schéma qui se répète. C'est que ce sont des personnes qui, dans la situation de vie quotidienne, par exemple, ça pouvait être des personnes qui faisaient la queue pour avoir des vivres, d'autres personnes qui, parce que c'est une époque particulière avec la fête de Pâques orthodoxe, qui vont donc dans des cimetières pour honorer la mémoire de leurs morts, et dont des personnes ont été touchées dans un cimetière, et donc certaines ont perdu la vie, et d'ailleurs des tombes également ont été touchées, donc il n'y a même pas de respect pour les morts, et il y a beaucoup de personnes qui, soit dans leur habitation, soit dans la rue, y compris parfois dans des jardins d'enfants, dans des aires de jeux par exemple, ont raconté que tout à coup, des bombes pleuvent, c'est littéralement une pluie de bombes, et notamment ces bombes caractéristiques qu'on appelle à fragmentation ou à sous-munition, où on entend un obus, mais également à l'intérieur de cet obus, des dizaines de petites bombes qui explosent immédiatement ou parfois plus tard. Et ce qu'on a pu constater, y compris en interrogeant des médecins dans les hôpitaux, c'est que ces personnes ont reçu donc des éclats d'obus qui peuvent parfois provoquer des lésions si terribles que ça conduit à des amputations. Donc des personnes qui ont perdu par exemple une jambe, parfois même les deux, des personnes qui ont été atteintes dans le dos, dans des poumons perforés par ces éclats d'obus. Et donc ce sont des victimes civiles qui se comptent donc par dizaines une fois encore. Rien que dans la ville de Kharkiv, ces frappes ont été malheureusement répétées et nous avons enquêté précisément sur 41 frappes aériennes pour déterminer à quel point ces frappes étaient de nature illégale.
Alors la Russie n'est pas signataire de la Convention internationale contre ces armes à sous-munitions légalement. Est-ce que on peut la tenir responsable?
La Russie s'est encore distinguée par le fait de ne pas signer cette convention d'Oslo qui interdit expressément l'utilisation de ces bombes à sous-munitions, les bombes antipersonnelles. Mais il n'en reste pas moins que le droit international, qu'on appelle dans ce cas-là le droit coutumier de la guerre, s'applique à tous, y compris la Russie. Et c'est pourquoi, devant des tribunaux, nous espérons une fois encore que les éléments de preuve que nous avons pu récolter et préserver eh bien, pourront être versés dans l'enquête de la Cour pénale internationale notamment, mais aussi dans des enquêtes nationales, car il est très clair depuis le début que les forces russes s'acharnent sur des populations civiles dans des zones qui sont peuplées densément de civils, que ce sont des frappes indiscriminées qui donc vont fatalement faire des victimes parmi ces civils, et tout cela est tout à fait proscrit par le droit international humanitaire.
Est-ce une stratégie claire de la Russie d'agir ainsi?
Le problème est bien le fait d'utiliser des armes qui parfois ont une précision de 100 mètres seulement, c'est-à-dire qu'à 100 mètres près, des personnes peuvent être touchées, ce qui est un ratio absolument terrible en termes d'efficacité, et que donc on peut avec certitude déterminer que des civils ne peuvent que être touchés par ces cibles-là. Mais notre certitude aujourd'hui, c'est qu'il y a véritablement une stratégie, effectivement, dans l'armée russe, une stratégie qui d'ailleurs avait été déjà à l'œuvre, par exemple, en Tchétchénie ou en Syrie, où les personnes civiles ne sont absolument pas distinguées des cibles militaires. Et c'est pourquoi nous pensons qu'effectivement, la Russie et surtout les responsables dans la chaîne de commandement devront en rendre compte devant la justice, car il s'agit bien de violations flagrantes et répétées du droit international humanitaire, et ce ne peut pas rester impuni.
Est-ce qu'on est bien sûr que ces armes ont été utilisées par l'armée russe ?
Ça fait partie de l'enquête. Lorsque je vous disais que d'une part à distance, mais aussi sur le terrain, on analyse très précisément la frappe, non seulement par rapport, par exemple, aux cratères qu'elle a pu laisser, mais aussi ces fragments d'obus dont je parlais, même parfois des fragments d'obus qui ont été retirés des corps qui ont été donc touchés. Donc tout cela montre déjà de quel type d'armes il s'agit. On peut remonter jusqu'à les utilisateurs potentiels de ces armes, et puis également en utilisant avec cette enquête tous les moyens, y compris des images satellites, pour pouvoir déterminer l'heure exacte, le lieu exact et d'où provient cette frappe. Cela donne beaucoup d'indices, même si évidemment nous sommes toujours très prudents pour dire que c'est la justice qui devra ensuite déterminer avec précision les responsabilités. Nous, notre travail, c'est de chercher le plus possible à établir les faits, à commencer à accumuler des éléments de preuve en faisant bien attention à les préserver, parce qu'on sait que souvent le problème est là, c'est que ce sont des preuves qui disparaissent par la suite. Et donc, nous estimons aujourd'hui déjà qu'il y a suffisamment d'éléments de preuve pour bien parler d'éléments constitutifs de crimes de guerre.